Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Et aujourd'hui, nous allons commencer notre nouvelle série PMA-GPA, la différence. En effet, il est temps de rentrer dans le détail de toutes ces méthodes de reproduction. Avec le débat qui va avoir lieu, peut-être repoussé en l'été 2019, en tous les cas, qui a lieu et qui va encore avoir lieu avec quelques sorties peut-être discutables. Nous y reviendrons tout à l'heure de nos politiques il y a quelques jours. La parole sera aux praticiens de la PMA. J'ai choisi d'inviter trois personnalités qui connaissent la PMA en tant que médecin, biologiste, et qui pourront parler de l'évolution, de leurs sentiments, des grands coups de cœur qu'ils ont eus et des grandes interrogations sur l'évolution de cette méthode proposée à des couples infertiles ou des couples qui ne le sont pas forcément, mais qui ont des problèmes pour se reproduire, on va dire classiquement. Alors, à ma gauche, Catherine Avril, vous êtes responsable du centre médical de la procréation de Rouen. Et d'ailleurs, vous avez choisi Darius Milhaud pour la création du monde comme musique que nous aurons à la pause. Christine de Canter, vous êtes à l'hôpital universitaire Jeanne de Flandre. Vous êtes spécialiste de la PMA, mais surtout de l'étude de ce qu'on appelle la réserve ovarienne, c'est-à-dire ce qui constitue le potentiel pour la femme de produire tout ce qu'il faut pour avoir un bébé, et aussi de la préservation de la fertilité, qui est un peu votre cheval de bataille, au sens, vous connaissez bien ces difficultés des femmes qui ont un cancer et qui souhaitent ultérieurement avoir un enfant. Mais bien sûr, le champ n'est pas réduit à cela. Jean-Philippe Wolf, enfin un garçon quand même avec moi, qu'on soit en parité, 2-2. Vous êtes chef de service de biologie de la reproduction à l'hôpital Cochin, à Paris Descartes. Vous occupez aussi du SECOS, et ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre point de vue sur l'éventualité de l'ouverture à des femmes seules, parce que la question qui vient tout de suite, c'est est-ce qu'il y aura assez de donneurs, ou quels seront les donneurs en plus, si on va parler de l'anonymat, ou de sa levée. Alors, dans tout cela, vous avez écrit d'ailleurs des livres que je conseille, Espoir et limites de l'AMP, Prendre soin de l'enfant à naître, chez Odile Jacob, en 2015, entre autres. Et puis, quelques articles de vous dans Le Monde ou dans Le Nouvel Observateur, dans l'Observateur, qui vous donne l'occasion de préciser votre pensée. Mais vous êtes sur France Culture et vous avez l'occasion de préciser votre pensée. Alors j'ai envie de vous demander d'abord, en tant que praticien, donc au cœur du problème de ces demandes que nous voyons, je me tourne vers vous, Catherine Avril, quelles sont finalement les grandes joies de votre métier que vous exercez depuis un certain temps et les grandes difficultés ?
Les grandes joies, c'est finalement de proposer aux couples un choix de liberté. Je crois que les plus grandes joies, c'est quand les couples viennent nous voir avec un enfant et qu'on voit cette extrême diversité des couples. On a finalement aidé les couples à réaliser leurs projets. Et c'est ça qui est finalement les plus grandes joies. C'est cette liberté qu'on leur donne. La nature, qui n'est pas toujours si bonne qu'on le prétend, était un obstacle à la réalisation de leurs projets. Et on a été là pour les aider à dépasser cet obstacle et finalement à pouvoir accomplir leurs souhaits dans toute la diversité des couples qui viennent nous voir. Bah, les plus grandes difficultés sont bien sûr les échecs, parce que les taux de succès en procréation médicalement assistée sont limités, et c'est aussi beaucoup gérer l'échec, essayer de ne pas donner de faux espoirs aux couples, et pouvoir les accompagner quelquefois dans le fait de devoir renoncer à un projet que les capacités limitées de notre métier aujourd'hui ne nous permettent pas de réaliser.
Christine de Canter, sur cette thématique-là, de ce que vous vivez au quotidien, parlons des résultats. Les choses vont évoluer, pourraient évoluer ?
En termes de chances de grossesse, oui. En AMP en France, la plus grande frustration qu'on peut ressentir, comme l'a dit Catherine Avril, c'est l'échec. On pourrait évoluer beaucoup en France si on avait des budgets alloués plus importants quant à nos équipements. Je pense que la France prend du retard par rapport au reste de l'Europe, pas seulement dans ce qu'elle peut offrir hors les couples hétérosexuels mentionnés dans la loi, mais également en termes de qualité de prise en charge. On est parfois bloqué par insuffisance d'équipement. Et moi, ce que je dirais, ce qui me fascine le plus dans l'exercice de l'AMP depuis plusieurs années, c'est ce vers quoi les couples nous emmènent.
C'est-à-dire
on a un panel de techniques dont qu'on sait très bien maîtriser désormais, mais on est toujours remis en cause dans notre exercice par la demande des couples. Ça peut être une demande sociétale, ça peut être une demande d'aller plus loin dans les essais, même si on est face à des échecs répétés. Et je suis fascinée de voir que, même quand on est perplexe au début, le couple nous emmène parfois dans des retranchements, on les suit et on est parfois couronné de succès.
Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire qu'on tombe dans de l'acharnement, entre guillemets, ou est-ce que on a une il y a plus de limite à la tentative?
Non, on lutte, nous, les médecins, on doit lutter contre l'acharnement, parce qu'après tout, nous sommes seuls à avoir le discernement de dire ça ne marchera pas, il faut changer de technique ou il faut changer de projet. Mais néanmoins, ça a été un peu comme ça avec les couples homosexuels, j'imagine, dans les autres pays. C'est-à-dire que on peut parfois avoir un a priori et se dire faire des grossesses aux homosexuels, mais non, jamais de la vie. Mais quand on a le couple face à soi, qu'on écoute la problématique, qu'on sent l'amour et le désir d'enfant et la souffrance qui sont sous-tendues par ça, au bout de 5 minutes, on oublie qu'on a un couple d'homosexuels face à soi. On a un couple, point, avec un désir d'enfant, point. Et on a juste envie d'y répondre.
Jean-Philippe Wolff, ce désir d'enfant, comment vous l'avez vu au fil des années évoluer? Vous qui, avez débuté avec Georges David, Pierre Joinet, sur le SECO, c'est-à-dire ce qui était déjà une révolution, hein, c'est-à-dire de faire appel à un sperme étranger au couple, cadré dans le comme si, la famille comme si, même si on fait appel à un tiers, avant que n'arrive le don d'ovocyte. Je rappelle d'ailleurs pour nos auditeurs que il n'y a que 5% des couples, grosso modo, qui font appel et qui ont besoin de quelqu'un d'autre que leur propre couple pour concevoir. 95%, c'est les couples biologiques, sont les couples qui vont élever les enfants. Mais comment est-ce que vous voyez cette évolution de cette demande de prise en charge?
Alors, la demande de la prise en charge, elle a changé avec... il y a 40 ans, Louise Braun est née. Donc, il y a 40 ans et demi, il fallait un rapport sexuel pour qu'il y ait un bébé, qu'il soit voulu ou pas, souhaité ou pas. Mais depuis 40 ans, on a rompu avec les millénaires qu'il y avait avant de l'obligation d'un rapport sexuel pour avoir un bébé.
Les enfants conçus par insémination, c'est très antérieur à la naissance de Louise Braun. Et c'était déjà des enfants conçus sans rapport sexuel.
Oui, c'est exact. C'était pas très très majoritaire. Hein, parce que quand même déjà, même après la guerre, l'Académie française et puis l'Académie de médecine étaient tout à fait contre.
Mais
tout à fait
oppositions, c'est sûr.
C'est pas ce que je veux dire. Le problème, c'est que nous avons inventé depuis la micro-injection, alors qu'était une solution à un problème.
Qu'on appelle l'ICSI.
L'ICSI, oui, la micro-injection, puis un seul spermatozoïde, c'est une solution à laquelle on n'avait même pas osé rêver auparavant. On peut congeler les embryons, on peut congeler les spermatozoïdes, on le fait depuis longtemps, on peut congeler maintenant les ovocytes. J'ai un petit peu le sentiment que l'échelle des possibles est devenue extrêmement grande et qu'on a affaire maintenant plus à une demande quasiment un petit peu impérative des gens qui estime que finalement, il n'y a qu'à vouloir et que l'on peut, avec les techniques qu'il y a maintenant, imaginer absolument tout.
Est-ce que cette urgence que tout le monde ressent, d'un seul coup, on a un couple qui c'est urgent, quoi, il faut que ça marche là, est-ce que c'est lié à cette évolution de l'âge, quand même, qui est quand même...
Alors c'est une deuxième...
On constate constamment l'âge des femmes en particulier, et qui nous pose problème, bien sûr, techniquement, pour un désir d'enfant à évoluer du côté de la droite, pas au sens politique, mais du côté du côté de l'âge qui avance, quoi.
Ce que je voulais dire de cette histoire-là, c'est que à un moment donné, il y a la demande du couple qui devient de plus en plus impérative, et comme vous l'avez tout à fait fait remarquer, là maintenant, c'est des femmes qui sont de plus en plus âgées, qui viennent nous voir, qui posent de très gros problèmes. Mais je veux dire, ça, c'est pas de leur faute spécialement. C'est un problème que nous avons à résoudre. Mais ce que je voudrais souligner, c'est la responsabilité que nous avons en tant que médecins de parler pour l'enfant qui doit résulter de ce couple-là.
C'est-à-dire?
Alors, c'est-à-dire, ben, on a un petit peu le sentiment que nous avons affaire maintenant à une demande qui a absolument nos limites, et qui sont des exigences.
Quand vous pensez nos limites, Jean-Philippe Wolff, vous pensez à quoi?
Ben, par exemple, on doit parler de la GPA tout à l'heure. J'ai lu, il y a des actrices de cinéma qui doivent faire des films et qui donc ont recours à une GPA pour elles-mêmes pouvoir garder leur corps d'actrice, ce que est probablement quelque chose d'important pour elles. Mais je veux dire, quand un enfant n'est pas une marchandise, c'est vraiment ça ce que je voudrais souligner. C'est pas un objet, absolument. Et on doit, nous, en tant que médecins, pouvoir parler au nom de l'enfant à venir. On n'a pas un enfant simplement pour faire bien dans la vie. C'est un enfant qui doit être désiré.
Et Christine de Canter, vous pensez qu'on doit parler au nom de l'enfant?
Oui, alors, c'est un concept juridique qui n'existe pas. C'est l'intérêt de l'enfant à naître. Il y a l'intérêt supérieur de l'enfant, mais ça prend en compte, sur le plan juridique, l'enfant qui est déjà né. Seulement, nous, en tant que médecins de reproduction, ça nous pose question très souvent, même dans le cadre de la loi actuelle, des demandes parfois un peu aberrantes de certains couples, des demandes de 11e, 12e enfant, avec certains enfants placés au milieu de la fratrie. Ça pose vraiment question d'induire une grossesse dans un contexte comme celui-là, et l'intérêt de l'enfant à naître doit peut-être parfois être questionné avant celui du couple demandeur.
Mais Christine de Canter, est-ce que vous refusez parfois de prendre en charge une demande? Je vais donner la parole à tout le monde.
Si elle n'est pas structurée,
il
m'arrive.
Vous évoquez quelle situation qui vous fait... c'est votre liberté de médecin de ne pas suivre la demande qui vous est faite.
Alors le refus est difficile et il est rarement pris seul. On discute du dossier en commission pluridisciplinaire. On est souvent démunis parce qu'on n'est pas aidé par les assistantes sociales. On n'a pas moyen de, je ne veux pas dire de mener l'enquête, ça n'est pas le but non plus. Mais parfois, on a des demandes. Alors je veux dire, si on refuse, on dit qu'on met en attente, quand il y a des problèmes sociaux ou avec les enfants précédents qui sont très graves, on peut permettre de se dire, on temporise le temps de régler les problèmes et de voir si...
Le tout, c'est peut-être de l'écrire clairement et de faire passer l'information, d'assumer la chose. Et puis effectivement, les gens sont libres d'aller frapper chez Catherine Avril,
par exemple.
Je
trouve que vous donnez une image des couples infertiles qui n'est pas, en tout cas pour ce qui me concerne, mon expérience. L'immense majorité des couples qu'on voit sont des couples qui ont un désir d'enfant et qui sont justement prêts à aller jusqu'à la procréation médicalement assistée. Et encore une fois, on voit comme ce parcours est long et difficile pour avoir un enfant. Et je trouve que mettre en cause leur désir d'enfant, leur potentialité à être des parents aimants...
Non, la question c'était, est-ce qu'il
même,
y a... Est-ce que vous voilà, avez... Est-ce que vous, alors, de temps en temps, vous refusez?
Mais bien évidemment, de temps en temps, on est amené à refuser de prendre en charge des couples pour lesquels on considère que la situation n'est pas favorable à la survenue d'un éventuel enfant. Mais ce n'est pas... c'est
pas
aussi vrai, c'est très largement vrai pour les couples qui font des enfants naturellement. On n'est pas dans une problématique qui est tellement propre à la procréation. C'est bien évidemment la différence. Mais l'immense majorité des couples qui ont recours à la procréation médicalement assistée sont des couples qui élèveront leurs enfants, en tout cas pas plus mal que les autres. Et toutes les données sur ce que le devenir des enfants issus de procréation médicalement assistée montrent qu'ils sont plutôt élevés avec plus d'attention que les autres. Ils sont plus à faire du sport, plus à faire de la musique, plus à faire je ne sais pas quoi que les autres, et je crois qu'on peut
comme
pas donner...
Comme tous les enfants attendus, ils sont très choyés.
Ils sont très choyés. Je crois que pour revenir à votre question sur ce qui a changé, pour moi, les choses fondamentales qui ont changé, c'est effectivement l'âge de la femme qui augmente, et cet étonnement des femmes quand elles ont 35-40 ans et qu'on leur dit que leur réserve ovarienne est déjà abaissée et que leurs chances d'avoir un enfant sont diminuées alors qu'elles ont l'espérance de vie qu'on sait et que physiquement on leur donne 25 ans, c'est extrêmement difficile à vivre. L'autre chose qui a extrêmement beaucoup changé, c'est qu'on est dans une société qui est très pluraliste et qu'on voit bien qu'aujourd'hui aucune vision du monde ne peut prétendre s'imposer aux autres et qu'il y a une diversité du vécu, une diversité de la vision de la famille qui n'a jamais été aussi importante.
Ah ça, la famille, elle n'a jamais été aussi diverse.
Et je crois que la troisième
festival.
Oui, la troisième très grande différence, c'est ce qu'on appelle le cross-border. C'est la possibilité aujourd'hui pour les couples, quand ils ne trouvent pas une réponse adaptée en France, à aller à l'étranger. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les trois grandes différences par rapport à ce qu'on vivait il y a 30 ou 40 ans.
Mais c'est pas parce que quelque chose se fait à l'étranger qu'on est obligé de le faire. Et inversement, il y a des points qui se discutent, parce que pourquoi est-ce que nous on n'arrive pas, et on va le venir tout à l'heure sur le plan scientifique, à faire un certain nombre de choses, alors que c'est courant, je pense en particulier à l'analyse de l'embryon, dans certains cas, j'ai pas dit dans tous, mais peut-être de réfléchir pourquoi est-ce que tel ou tel embryon va s'implanter et l'autre pas, ce qui est une charge importante pour les couples en particulier. Donc vous évoquez les uns les autres cette évolution. par rapport au désir d'enfant, la difficulté parfois d'essayer de guider, de contrecarrer, d'attendre ou de refuser certains cas, et puis bien sûr dans la majorité des cas d'accompagner et même d'être très présent et même d'être très touché, surtout par ceux qui non seulement sont au début, mais se trouvent aussi à la fin, c'est-à-dire à l'accouchement pour les gynécologues obstétriciens, qui voient le petit embryon et le petit bébé 9 mois après. C'est absolument enthousiasmant, bien entendu, ce qui nous a fait choisir ce métier. Alors, nous avons des difficultés, vous avez les difficultés, c'est les résultats qui ne sont pas à la hauteur des espérances. Ce qui renvoie à quoi? Ce qui renvoie peut-être à une nécessité de recherche qui est en difficulté en France. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes en perdition? Les équipes françaises n'ont plus la place qu'ils avaient antérieurement dans le monde universitaire international. Juste pour donner un petit exemple, quand on avait fait la première réunion, qui était en Corse d'ailleurs, à l'époque en 83, il y avait 200 médecins qui venaient du monde entier. Aujourd'hui, les réunions annuelles réunissent 10 000, au moins 10 à 12 000 médecins, ce qui veut dire que voilà. Mais les Français ont régressé, ils ont descendu du podium.
C'est absolument le cas. Alors, nous avons un corpus de lois qui encadre l'assistance médicale à la procréation, mais surtout qui encadre les possibilités de recherche sur les gamètes, sur l'embryon, etc.
Et pourtant, une loi en 2013 dit que on peut faire de la recherche sur l'embryon. Sauf que.
Oui, mais sauf que quand vous demandez. Quand on demande une autorisation, ça met, j'allais dire des plombs, c'est pas des plombs, techniquement. L'Agence de la biomédecine, par exemple, est supposée répondre en 4 mois. Ben, moi, j'ai fait une demande, c'était 1 an et demi après avoir répondu 50 fois aux mêmes questions, etc., qu'on a fini par me donner une autorisation. Mais, la difficulté est absolument majeure, et la résultante, c'est que la France disparaît complètement de tous les congrès qui sont de la discipline, les congrès internationaux, etc., où on voit les Anglais, mais les Espagnols ou les Belges faire des présentations sur effectivement la génétique de l'embryon qui est in fine la clé la clé de l'avenir de l'embryon. On sait avec ça est-ce qu'il va y avoir un bébé ou pas, et enfin, pour l'immense majorité des cas, en tout état de cause. Or, la France est complètement absente de toutes ces recherches, parce que le corpus de loi fait que c'est pas interdit, mais en pratique on n'y arrive jamais.
Mais est-ce que vous pensez qu'en France, finalement, on donne de moins bons résultats à nos couples qu'ailleurs, où la recherche est plus libre? Christine Dacanter.
Actuellement, donc, la France progresse chaque année dans les chances de grossesse qu'on offre aux couples en AMP, mais il n'en demeure pas moins qu'on est distancié par les autres pays qui, eux, progressent plus vite que nous.
Alors, voyons un petit peu. Avant de parler d'extension sociétale et tout ça, justement, sur le plan médical, proprement dit, nous allons d'aborder rapidement, bien sûr, parce que c'est trop spécialisé, mais les difficultés d'une recherche, en particulier sur l'embryon, hein, puisque je rappelle juste à nos auditeurs qu'au moment où on a cette méthode de cryopréservation, d'une congélation rapide, je veux dire, on a mis 5 ans en France par rapport aux Japonais pour le faire, pour être voté et être accepté, ce qui montre un peu les difficultés. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous poser la question d'abord. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'en France, à chaque fois, il y a eu toutes les étapes? Il y a eu des étapes entre la congélation, le don, je dirais le diagnostic préimplantatoire, la congélation d'ovocytes. À chaque fois, c'est une bataille qui ne semble pas exister dans d'autres pays qui nous entourent, en Europe en particulier.
C'est un véritable paradoxe, parce que je reviens de New York, dans un congrès, les Américains nous disent que vraiment la France, c'est, enfin, pour ceux qui sont anti-Trump en tout état de cause, que la France c'est un idéal de gestion des concepts, un idéal de gestion des et qui nous envie plutôt. Alors quand je leur explique que nous on peut absolument pas faire de recherche sur l'embryon, on ne peut absolument pas faire la majorité des recherches qui se font partout dans le monde.
On peut difficilement innover, parce difficilement, que dès qu'on innove, on dit justement qu'on fait de la recherche et c'est condamné.
Par exemple, cette personne nous parlait du professeur Émile-Étienne Beaulieu qui avait fait l'antiprogestérone il y a quelque temps. On est à des limites de notre sujet là, mais il dit il avait fait ça aux États-Unis, ça a été un véritable suicide que de vouloir faire une antiprogestérone qui en sait qu'elle interrompt les grossesses pour les femmes qui souhaitent interrompre la grossesse.
Par du RU486.
RU486, oui. Donc c'est tout à fait paradoxal.
Oui, Catherine Avril.
C'est d'autant plus paradoxal que finalement, pour ce qui avait été de la loi Neuwirth de 76, de la loi Veil de 75, on avait été à peu près dans la moyenne. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que pour le diagnostic prénatal, on est un des pays qui a la législation la plus ouverte. On a, je crois, par habitant, le plus grand parc d'échographes. On est extrêmement performant en diagnostic prénatal. On autorise des femmes à interrompre une grossesse quand l'enfant est porteur de malformations graves dans des proportions extrêmement larges en France. Ce qui, pour prendre un mot totem, traduit quand même un certain eugénisme. Et quand il s'agit de le faire sur un embryon, c'est impossible. Ce qui s'est passé dans le service du professeur Nizan est extrêmement parlant à Strasbourg. Une femme qui avait ce qu'on appelle un DPI, un diagnostic préimplantatoire, car elle était susceptible de transmettre à son enfant une maladie extrêmement grave et elle avait déjà un enfant porteur de cette maladie extrêmement grave. On a réimplanté dans l'utérus de cette femme un embryon, ça on est autorisé à le faire, qui n'était pas porteur de la pathologie extrêmement grave dont je vous parle, mais on n'est pas autorisé en France à voir si cet embryon est porteur de la trisomie 21. Eh bien, cet embryon était porteur de la trisomie 21. On a réimplanté dans l'utérus de cette femme cet embryon. Et alors qu'elle était enceinte de 4 mois après ce parcours absolument effondrant, elle a dû faire une interruption de grossesse. Et ça, c'était autorisé. Donc, on autorise sur des femmes enceintes de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois, ce qu'on interdit sur un embryon. Donc, c'est une législation qui est extraordinairement paradoxale.
Voilà quelques aspects que nous allons reprendre après la création du monde de Darius Milhaud, dirigé par Leonard Bernstein.
France Culture, Matière à penser, René Friedman.
Voilà, en partenariat avec le quotidien du médecin, nous parlons aujourd'hui avec trois invités qui sont Christine Decanter, Catherine Avril et Jean-Philippe Wolf, en tant que praticiens de la PMA, de l'AMP, on pourra discuter, sur un peu la situation en France à l'heure où se discute donc cette révision des lois de bioéthique. Je vous posais la question tout à l'heure de savoir pourquoi est-ce qu'en France c'est aussi bloqué, aussi difficile. Et je me demande personnellement, est-ce que c'est pas parce que justement, finalement, on refait une loi tous les 5-7 ans, ce qui va être et qui est voté au Parlement, et ce qui est un combat politique, ce qui est un vote politique, ce qui fait une politisation des thématiques, alors que beaucoup de pays qui nous entourent ont donné des lignes générales, et puis ensuite ça se discute au terme d'une agence ou de l'équivalent d'une agence, avec des précisions et des avancées. Ici, à chaque fois, ça cristallise une notion de pouvoir.
Et c'est clivant.
Et c'est clivant, forcément. Absolument, parce qu'il y a des batailles de pouvoir, et je pense qu'on va assister à cela l'année prochaine. D'ailleurs, si le décalage a eu lieu, comme vous le disiez en aparté, Jean-Philippe Wolff, de janvier à l'été, c'est peut-être parce qu'il y a les Gilets jaunes et d'autres manifestations qui feraient peut-être un peu beaucoup dans le climat. Concentrons-nous sur le point important pour vous dans la PMA. J'ai cru entendre que vous vouliez parler de l'ovocyte, c'est-à-dire l'ovule féminin. Pourquoi, oui. Jean-Philippe Wolff?
Ah ben parce que c'est la clé de la fertilité de la
femme. C'est pas le spermatozoïde.
Non, c'est pas le spermatozoïde. Alors moi, j'ai passé 30 ans de ma carrière à me battre pour la qualité du sperme, ce qui est une chose très très bien que je regrette pas. Mais il est une évidence que le sperme, il y en a des quantités absolument industrielles qui ne servent pas à grand chose la plupart du temps, alors que l'ovocyte est absolument fondamental. Hein.
C'est précieux, c'est rare.
C'est précieux, c'est rare, mais surtout les femmes, beaucoup d'ailleurs l'ignorent, des jeunes femmes et des jeunes hommes, et c'est assez important que l'un et l'autre le sachent. Les femmes portent tous les ovocytes qu'elles ont depuis leur naissance, ce qui a quatre conséquences. C'est que le pool qu'elles ont, qu'elles transportent en permanence, ne fait que diminuer. La deuxième conséquence, diminuer, c'est pas encore très très grave, parce que comme elles ovulent, enfin une femme ovule à peu près 500 fois dans sa vie, il y en a des centaines, des dizaines de milliers. C'est pas un problème. Donc, le deuxième problème qui est beaucoup plus important, c'est que le pool vieillit. Et quand la femme a 25 ans, l'ovule a 25 ans. Quand elle a 35, l'ovule a 35 ans. Et chacun sait qu'à 35 ans, même les grands sportifs commencent à raccrocher leurs crampons parce qu'à 35 ans, on n'a pas les mêmes capacités qu'à 25. La troisième conséquence, c'est que les ovocytes sont en permanence et de manière cumulative soumis à tous les toxiques que la femme peut
l'environnement...
rencontrer. L'environnement, les cigarettes, les perturbateurs endocriniens, etc. Mais de manière cumulative, parce que les hommes ont ce privilège de transporter sur eux des spermatozoïdes qui sont pas beaucoup plus âgés que 3 mois. En permanence.
Ça se renouvelle.
Ça se renouvelle en permanence.
C'est la permanence.
Alors que les ovocytes sont là depuis la naissance et ont subi de manière cumulative absolument toutes les agressions, les phtalates, les parabènes, les perturbateurs endocriniens, les fumées de cigarettes, etc. Donc la conséquence de tout ça, c'est que l'ovocyte jeune, qui est on va peut-être pas rentrer dans le cadre de la méiose qui est déjà un petit peu l'horreur des étudiants en médecine, mais il y a un mécanisme de régulation du nombre des chromosomes qui est absolument ahurissant, qui commence dans l'ovaire fœtal quand la petite fille dans le ventre de sa maman et qui recommence simplement 36 heures avant et qui donc a une proportion d'échec absolument considérable.
Oui, c'est la reproduction humaine n'est pas au top, c'est le moins qu'on puisse dire naturellement,
non seulement elle est pas au top, mais
par rapport aux animaux, on est quand même loin de la chose. Même si Darius Milhaud a fait la création du monde en parlant de tous les animaux, les végétaux, il est vrai que nous qui sommes confrontés à l'espèce humaine, nous savons que c'est pas terrible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a besoin de des médecins.
Et plus les femmes deviennent âgées, et malheureusement, quand on dit âgées, c'est 35-37 ans, plus la difficulté est grande, et c'est vraiment ça le problème.
Ovocyte, Christine de Canterre.
Je pense que ce qui est très important de faire passer comme message aux femmes, c'est que, et aux médecins de reproduction, c'est que l'ovocyte, c'est devenu le nouveau saint graal de l'assistance médicale à la procréation. Mmh. On sait maintenant presque tout faire avec un sperme même très très altéré, et par contre, l'assistance médicale à la procréation ne donne pas de réponse, contrairement à l'homme, aux altérations de qualité ou de quantité des ovocytes. Et ça, c'est vraiment une grande injustice, mais il est important de faire passer ce message. Et c'est pourquoi il existe au jour d'aujourd'hui un tel engouement pour l'autoconservation ovocytaire, parce que les femmes pensent que en congelant leurs ovocytes, souvent à un âge trop tardif, parce que c'est normal qu'à 25 ans on ne pense pas à ça, et qu'on y pense davantage à 35 ans si on est encore célibataire ou pas en projet de faire un enfant, il faut les prémunir d'une illusion. Je pense qu'il faut continuer à dire que rien ne sera plus fécond qu'un ovocyte pondu in vivo et fécondé in vivo, que la congélation ovocytaire, ça peut être une option, mais ne donnera pas les mêmes chances de grossesse que quand on a une conception in vivo ou en AMP, mais à un âge raisonnable.
Donc l'autoconservation, c'est une alternative possible, qui n'est pas la panacée, c'est ça que vous voulez dire.
C'est une chance supplémentaire, mais en aucun cas une assurance.
Absolument. Ceci étant, c'est interdit en France, à la différence de beaucoup de pays avoisinants. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Je pense que aujourd'hui, L'ovocyte fait l'objet d'un énorme business, extrêmement lucratif, je pense qu'il faut quand même le dire.
On peut le dire.
Moi, j'admire énormément l'Espagne par la qualité, l'immense qualité de sa prise en charge, mais on peut pas nier qu'il existe un certain prosélytisme, que ce soit pour donner ses ovocytes et les vendre, et auto-conserver ses ovocytes à des prix qui sont très coûteux parce que les techniques sont excellentes en qualité, mais on peut plus ignorer cela, et je trouve que en France, on doit pouvoir autoriser la congélation ovocytaire, mais en informant clairement les patientes des réelles chances qu'on leur donnera d'avoir peut-être un enfant, mais certainement pas une famille.
Catherine Avril, sur ce thème de l'autoconservation.
La liberté commence où l'ignorance finit, disait Victor Hugo. Donc je crois qu'effectivement, il faut considérer l'état de la science avec une objectivité scientifique. Et c'est peut-être le grand problème des lois de bioéthique, c'est qu'elles n'ont pas assez laissé de place à l'objectivité scientifique sur laquelle un consensus est beaucoup plus facile à obtenir que sur les questions d'éthique qui forcément ont une dimension individuelle. Et probablement dans une démocratie, ce qu'il faut, c'est considérer l'état de la science avec objectivité. Pour la préservation ovocytaire, effectivement, il ne faut pas laisser espérer une certitude là où il n'y a qu'un espoir. Il y a un business, effectivement, en Espagne, malgré la très grande qualité des soins, c'est évident. Il faut autoriser. En France, oui, c'est la seule façon aujourd'hui d'apporter au maximum de femmes cette opportunité. Alors, se posera le problème de savoir si on le prend en charge ou pas. Je crois qu'il ne faut pas oublier que les lois Neuwirth, c'était l'autorisation de la contraception qui n'était pas prise en charge. C'est une dizaine d'années plus tard qu'elle a été remboursée. Que les lois Veil, c'était l'autorisation de l'IVG, mais pas sa prise en charge. Et c'est 8 ans plus tard que l'IVG a été remboursée. Et je crois que c'est Guido Penning, ce professeur d'éthique de la faculté de Gand, qui dit toujours qu'on a en France une morale de l'envie. Et finalement, si on autorise en France cette technique, on va élargir le panel des femmes qui vont pouvoir y avoir accès. On ne retirera rien à celles qui, hélas, le souhaiteront et n'auront pas les moyens financiers de pouvoir le faire. Et on sait que s'il se trouve que dans quelques années ça devient une nécessité sociétale, eh bien les plus modestes y auront accès. Et je crois que sous le prétexte que si on l'autorise, la société n'aura pas le moyen de le prendre en charge pour tout le monde, ne pas l'autoriser sous ce prétexte n'est absolument pas utile.
Est-ce que vous pensez que cette situation nous permettrait d'ouverture que nous évoquons, qui va faire appel en particulier à un don de gamètes qu'on a un peu chatouillé un peu de quelques mots sur la commercialisation que cela implique, en particulier dans les pays limitrophes, en sachant le paradoxe que vous connaissez comme moi, c'est que à moins de 43 ans, la sécurité sociale française va rembourser une partie des frais faits à l'étranger pour une méthodologie qui n'est pas acceptée en France. Oui. Donc, je veux dire, pourquoi la méthodologie n'est pas acceptée en France? Parce qu'elle est jugée comme si on indemnisait ou on payait les donneuses, comme ça passe à 900 euros, je dirais, en Espagne. Alors que les Espagnols considèrent que c'est une indemnisation selon la loi qu'ils ont pondue, puisque c'est un tarif pour tout le monde. Donc, ma question, elle est, comment faire pour que en France, on puisse offrir, beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, un don d'ovocytes? Est-ce qu'il faut s'appuyer sur monter l'indemnisation? Est-ce qu'il faut pouvoir faire des campagnes? Quel est votre sentiment? Comment est-ce qu'on va changer ce système pour qu'on puisse offrir à nos patientes qui le souhaitent, avec les limites que cela implique de compréhension et puis de succès, mais qui le souhaitent, d'avoir un recours à un don d'ovocytes?
Le don, c'est par définition un acte oblatif. Le corps humain est indisponible en France et c'est évidemment très bien comme ça. À côté de ça, quand on demande aux donneuses de colliger des factures de garde d'enfants, des factures de taxi, je trouve que c'est tout à fait infamant. Et finalement, cette indemnisation forfaitaire espagnole, on peut en discuter le montant, apparaît quand même comme une reconnaissance pour ce que la donneuse fait pour un autre couple. On pourrait tout à fait imaginer, l'agence de biomédecine pourrait trouver un rôle en ce sens, qu'il y ait un registre des donneuses et qu'une femme ne puisse donner qu'une ou deux fois dans sa vie, ce serait à déterminer de façon à ce que des femmes n'aient pas comme source de revenus le fait de donner leurs ovocytes.
C'est surtout ça le problème en Espagne. Je veux dire que moi je suis allé visiter les cliniques espagnoles, elles sont extrêmement bien achalandées, extrêmement bien installées. Le seul problème, on ne vous montre pas là où on ponctionne les ovaires des femmes donneuses. Est-ce qu'on peut craindre?
Ni qui sont d'ailleurs les femmes donneuses. Parce que soyons clairs, aucun pays n'a un registre national des donneuses avec un suivi de celles-ci.
Sauf le problème en Espagne, c'est qu'il y a des gens qui vivent du don d'ovocytes. Ce à quoi nous ne sommes tout à fait opposés, bien évidemment. C'est pas simplement qu'on pense que le corps est inaliénable et qu'il ne doit pas y avoir de vente. On ne peut pas vendre un rein, on ne peut pas vendre un œil dans la législation française en tout état de cause, mais on voit bien que dans le monde, aussi bien les dons d'ovocytes, aussi bien que les grossesses pour autrui, recoupent exactement la carte mondiale de la pauvreté. Hein. Si les gens vont faire des GPA en Inde, c'est parce que c'est beaucoup moins cher que ça ne le serait aux États-Unis. Et les gens qui vendent qui vendent leurs ovocytes pour pouvoir vivre, c'est un truc qui est tout à fait scandaleux.
Alors imaginons qu'on suive, qu'on ait un registre et qu'on puisse éviter cette commercialisation.
Il faudrait qu'il y ait ce registre. Des pays au niveau de vie extrêmement élevé, comme la Scandinavie, la Belgique, les Pays-Bas, sont autosuffisants dans le domaine du don d'ovocytes. L'autre chose qu'il faudrait faire, c'est ouvrir au secteur dit privé en France, puisque un peu plus de la moitié des tentatives de procréation médicalement assistée sont faites en France en secteur libéral, et que on est totalement, comme le disait Christine, schizophrène, puisque l'assurance maladie donne une indemnisation aux couples pour les aider à aller en Espagne dans des centres aux tarifs qui sont absolument prohibitifs, et que les centres privés en France ne sont pas autorisés à le faire. Si on considère que l'éthique des centres privés n'est pas suffisante pour faire du don d'ovocytes, elle ne l'est pas non plus pour faire de la FIV ni n'importe quel acte médical. Ça n'a absolument aucun sens. Donc c'est probablement une indemnisation forfaitaire pour les donneuses, un registre national du don pour éviter que ce ne soit une activité que de donner ses ovocytes et pouvoir avoir un suivi de ces femmes donneuses à long terme, et que l'ensemble des centres autorisés à la procréation médicalement assistée et qu'ils souhaitent puissent participer à cette activité, car si on sait que si on augmente l'offre de soins, on a toujours une augmentation de l'activité et on pourrait essayer d'être autosuffisant et que nos patientes n'aillent plus à l'étranger. Et peut-être en dernier point, contrairement à ce qu'on pense, pouvoir avoir une offre plus variée sur la question de l'anonymat. Parce que l'idée de dire que finalement, en supprimant l'anonymat des donneuses, on diminuera le nombre de dons, si effectivement on passe d'un système qui impose quelque chose, ce sera le cas. Mais si on a plusieurs possibilités, eh bien il y a des patientes qui accepteront de donner pour leur sœur et qui n'accepteraient pas de donner pour alimenter un pôle.
C'est la pire des situations. Alors ça, au Ségos, on a une grande expérience depuis une cinquantaine d'années.
Vous avez une expérience unique, c'est celle de l'anonymat.
Absolument.
Oui.
Oui, mais on sait aussi...
Pas du nom d'anonymat.
Oui, mais on sait ce que ça donne quand il y a absence d'anonymat.
Il y a beaucoup quand même de grandes études sur les enfants nés en l'absence d'anonymat et qui montrent qu'il n'y a pas de différence. Il y a la grande étude américaine qui a été publiée dans Human Reprod en janvier 2017 sur un nombre absolument considérable d'enfants qui montre qu'il n'y a pas de différence. Oui,
alors, les études américaines, moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'il n'y a pas d'anonymat du don de sperme aux États-Unis. On peut même... s'amuser à regrouper les 150 personnes qui sont issues du don du même donneur. Et tout le monde pense que c'est très bien parce que ça se fait là-bas. Mais quand on va là-bas et quand on demande aux gens, il y a aussi des articles qui disent que c'est une catastrophe pour certains.
Parce qu'il nous reste peu de temps. Si je comprends bien, Jean-Philippe Wolf, vous n'êtes pas pour la levée de l'anonymat dans aucune circonstance.
Non,
vous êtes pour des données non identifiantes. Comme tous les échos se sont prononcés, tout le monde aujourd'hui est d'accord là-dessus. Par contre, vous opposez à la levée possible de l'anonymat. Je voudrais juste rapporter quand même, pour que nos auditeurs le sachent, l'exemple anglais, qui depuis 5 ans a levé donc l'anonymat. Il y a donc un registre de donneurs et de donneuses, ce qui permet d'ailleurs peut-être de suivre leur évolution, parce que sinon, je vois pas, c'est plus complexe d'avoir un registre anonyme, parce que l'anonymat ne va pas tout à fait avec le mot registre, mais non anonyme, on peut avoir un registre. Et puis, encore une fois, l'enfant à 18 ans ou 16 ans peut, s'il est informé, premier point, deuxièmement, s'il le souhaite, deuxième point, et essayer de retrouver son donneur par ce registre. Se pose à mes yeux aussi la question, le donneur qui s'est engagé 18 ans avant, peut-il changer d'avis ou pas? A-t-il la liberté de le faire? C'est une question à débattre. Maintenant, personnellement, je rejoins assez Catherine Avril pour dire que peut-être une souplesse dans le choix selon les parents, parce que de toute façon, ils le diront pas, on n'est pas là pour les obliger. Et l'enfant, bah, certains ont besoin de remonter à leurs origines génétiques, d'autres non.
Mais le problème, justement, il est dans la question que vous avez soulevée. Certains le diront pas. Le problème, c'est précisément ceux qui ne le disent pas. Le problème n'est pas tant l'anonymat du donneur ou de la donneuse. Le problème, c'est le secret que les parents peuvent garder vis-à-vis de leur enfant sur le secret de la conception.
Vous me faites un peu rire parce que quand même, les sécos ont tout mis en place pour que ce secret soit préservé. Alors, je dis, maintenant, vous changez, c'est bien. Mais peut-être il faut changer.
On a le droit d'évoluer, hein.
Vous êtes bienvenue chez nous. Mais les évolutionnistes, là, quand même, la vraie question, c'est comment vous répondez au fait qu'il y a des enfants, et vous l'avez bien vu avec ce qui s'est passé, la recherche génétique récente. Il y a des enfants qui ont besoin de remonter à leurs origines, et c'est une véritable souffrance, et d'autres non. Christine de Canterre.
Moi, je pense qu'il faut plus de souplesse, définitivement. Je pense pas qu'on puisse avoir d'attitude univoque, et tout dépendra des couples qu'on aura pris en charge. Enfin, c'est un grand débat, hein, effectivement, mais on est obligé d'évoluer, et je trouve que les sécos évoluent là, en ce moment
Christine, j'ai bien compris, Catherine Avril, vous êtes aussi pour une souplesse, vous l'avez dit
tout à l'heure. Pour une souplesse, je pense qu'effectivement, le fait que si on impose le fait d'avoir accès à ses origines, on prend le risque d'augmenter les secrets de famille. Il faut trouver une solution qui corresponde. Les couples sont extrêmement divers. J'ai dit tout à l'heure, c'est un des principaux changements qui a lieu. Et dans le fait que les gens aillent à l'étranger, il y a aussi pour un certain nombre de couples la volonté d'avoir une médecine qui leur correspond mieux. Pour les sécos, c'est des dons de spermatozoïdes. Le nombre de couples que nous avons à Rouen et qui vont en don de spermatozoïdes maintenant à l'étranger parce qu'ils veulent un don non anonyme, mais c'est au moins 30 ou 35% aujourd'hui de notre patientèle et c'est tout à fait nouveau.
Jean-Philippe Wolff, pour conclure sur ce point, parce qu'on ne peut pas tout aborder.
Tous les jeunes gens que nous rencontrons à l'heure actuelle et qui militent pour la levée de l'anonymat sont quasiment sans exception des gens qui ont appris le secret de leur conception de manière tout à fait traumatisante à un âge tout à fait tardif. Vous avez un père, vous avez une mère, vous avez une famille, pour vous ça pose pas de problème. Quand à 25 ans on vient vous dire « Ah tiens, il y a un truc que je t'avais pas dit, mais en fait ton papa n'est pas ton papa, etc. » On comprend très bien, enfin des jeunes femmes l'ont raconté dans la presse, on comprend très bien, on se met à leur place que votre univers s'effondre. Le problème n'est pas tant le fait d'être conçu par le sperme de quelqu'un d'autre que votre père. Le problème, c'est de l'apprendre de manière brutale à un âge élevé.
Vous pensez que
vous savez que les femmes étant ce qu'elles sont et les hommes étant ce qu'ils sont, il y a 3% des enfants qui ne sont pas du père, qu'ils croient avoir, ce qui fait en France plus de 2 millions de personnes qui sont dans cette situation-là. Et je dois dire que la sexualité des femmes ne dépend pas de la qualité du sperme de leur conjoint, c'est que c'est également vrai pour les spermes de donneurs. C'est-à-dire que si on levait aujourd'hui l'anonymat, il y aurait 3% des enfants qui se trouveraient dans la situation où c'est pas non plus le donneur qui a fait le bébé.
Mais nous sommes quand même confrontés, je pense, même avec une information précoce que l'on ne peut pas imposer, donc vous aurez automatiquement des situations où ça ne passera pas, parce qu'on ne voit pas le PV bleu du gouvernement venir annoncer à l'enfant comment il a été conçu. Donc, il y aura des enfants qui l'apprendront tardivement, je dirais, et des enfants qui l'apprendront précocement, et qui voudraient en savoir plus. Et à ce moment-là, sur quoi, sur quels arguments peut-on s'y opposer? C'est le débat, on ne va pas le résoudre aujourd'hui, mais on s'est exprimé. Je vous remercie tous les trois d'avoir été aussi pugnace, présent sympathiquement dans cette émission qui, je le rappelle, a été rendue possible grâce à Catherine Donnet, à Sandrine Chaperon, à Perry Legras, à Nino Lima, à Alain Joubert. C'est le début d'une série PMA-GPA. Nous n'avons pas eu le temps de parler de GPA, mais nous en parlerons les jours qui viennent. Les positions varient bien entendu, mais elles sont nécessaires à la bonne compréhension de cette réforme des lois de bioéthique qui finira bien par arriver. Alors vous pouvez avoir toutes ces informations sur le site internet franceculture.fr, les réécouter autant que vous souhaitez. Et demain, nous parlerons les femmes à l'assaut de la PMA. À demain.